Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous en sommes au chapitre 7e de Saint-Luc, au verset 38, en train d'expliquer la conversion de Sainte-Marie-Madeleine. Donc il vient s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Se tenant derrière lui, à ses pieds, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête et elle baisait ses pieds les oignait de parfum. Sur le polycopier, donc qui couvre les chapitres 6 à 10 de Saint-Luc, nous en sommes au milieu de la page 14. Rappelez-vous que Sainte Marie-Madeleine est une des plus grandes saintes que la terre ait jamais portée. Et donc il faut méditer l'exemple de sa conversion. Elle est devenue une des plus grandes saintes alors qu'elle était vraiment un tison de l'enfer au début au moins. Et grâce à Dieu, elle a changé. Si Sainte Marie-Madeleine est devenue une très grande sainte, ça veut dire que tout le monde peut se convertir avec la grâce du bon Dieu. Donc j'ai déjà expliqué avec les pères de l'Église donc le symbole de ce qu'a fait Sainte Marie-Madeleine, donc qui va utiliser les mêmes choses qu'elle a utilisées pour pécher, elle va les utiliser maintenant pour les mettre au service du bon Dieu. Elle avait utilisé ses cheveux pour attirer les hommes, et bien elle va maintenant utiliser ses cheveux pour sécher les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, après les avoir oints de parfum. Elle avait utilisé ses yeux pour convoiter les choses mondaines, et maintenant elle va les laver avec les larmes du repentir. Elle avait utilisé sa bouche pour embrasser de façon pécamineuse, pour parler avec orgueil, et bien maintenant elle va utiliser cette bouche pour baiser les pieds du Sauveur et imprimer ses lèvres sur les pieds du Rédempteur. Elle avait employé autrefois des parfums pour donner à son corps une agréable odeur et attirer les âmes à elle, attirer les âmes à ses péchés, mais maintenant elle va utiliser ses parfums pour en faire un instrument de pénitence et pour plaire au bon Dieu. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Donc page 14, au milieu de la page. Hâtez-vous, disent les pères, de vous rendre dans toute maison où vous apprenez que Jésus est entré, comme Sainte Marie-Madeleine. Elle a cherché notre Seigneur, elle a dû demander à notre Seigneur Vierge Marie où était notre Seigneur, et Sainte Marie-Madeleine lui a dit Notre-Dame a dit à Sainte Marie-Madeleine que notre Seigneur, son divin fils, était dans la maison de Simon le lépreux. Il lui a expliqué comment y aller. Lorsque vous aurez trouvé la sagesse assise dans quelque demeure secrète, accourez-vous jeter à ses pieds, c'est-à-dire chercher d'abord le dernier degré de la sagesse et confessez vos péchés dans les larmes. Il faut bien noter qu'on ne peut pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et le toucher sans d'abord regretter ses péchés. On regrette ses péchés, et une fois qu'on regrette ses péchés, à ce moment-là, on est autorisé à toucher notre Seigneur et à verser sur ses pieds le parfum de notre contrition. Et nous sommes autorisés à arroser des larmes de notre pénitence les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas arriver comme ça devant notre Seigneur Jésus-Christ et se mettre à verser le parfum sur ses pieds sans d'abord regretter ses péchés. Si je m'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, je prétends le toucher sans regretter mon péché, c'est l'hypocrisie pure et simple, et à ce moment-là, je vais toucher notre Seigneur Jésus-Christ littéralement de façon sacrilège. Si je touche notre Seigneur Jésus-Christ avec les âmes chargées de péché, je commets un péché grave de sacrilège, parce que ça va correspondre à une mauvaise confession, une mauvaise communion. Au contraire, si je touche notre Seigneur Jésus-Christ après m'être purifié par le sacrement de pénitence, alors je suis autorisé à verser sur ses pieds le parfum de ma reconnaissance. Nous lavons, disent les pères, les pieds du Seigneur dans nos larmes, lorsque par un sentiment d'affectueuse compassion, nous abaissons jusqu'aux membres les plus humbles du Seigneur. Nous essuyons ses pieds avec nos cheveux lorsque la charité nous porte à secourir de notre superflu les saints serviteurs de Dieu. On voit très bien que quand un gros pécheur se convertit, ça entraîne tout de suite à ce pécheur à aller s'occuper des plus pauvres parmi les membres de l'Église de Dieu, dans l'Église militante. On voit très bien cela, par exemple, même chez des gens qui avaient reçu une éducation très soignée. C'est le cas de Sainte-Marie-Madeleine, c'est le cas aussi de tous ces sénateurs romains qui sont convertis et qui ont commencé à les servir les pauvres, servir les esclaves. Ils allaient laver les pieds des pauvres pour bien montrer qu'ils n'étaient plus, justement, ceux qui étaient pleins d'orgueil, tels qu'ils avaient été auparavant, qu'ils ont complètement changé, que maintenant ils étaient dans l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, attention à l'orgueil. L'orgueil nous empêche d'atteindre les pieds de notre Seigneur. Il faut atteindre les pieds. C'est la première étape. Et une fois qu'on a atteint les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ par la pénitence, à ce moment-là, après une deuxième étape, on peut atteindre sa tête. N'oubliez pas que Sainte Marie-Madeleine va effectuer ce geste de verser des parfums sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ deux fois. Première fois en mettant ce parfum très précieux sur les pieds de notre Seigneur, et une deuxième fois juste avant la Passion en mettant ce parfum sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça représente pour la première fois la voie purgative. La voie de purification, il est nécessaire pour nous que nous passions par la voie de purification avant de s'approcher de notre Seigneur. Et donc au début, on ne peut toucher que ses pieds. Et puis une fois qu'on est passé en voie illuminative, on peut accéder à la voie unitive, la voie mystique, et à ce moment-là, nous serons autorisés à verser le parfum précieux de notre amour sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons aussi que Sainte Marie-Madeleine a voulu même verser les parfums une troisième fois sur notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci sur son corps mort, puisqu'elle se présente le jour de Pâques, tôt le matin, elle va se présenter avec les saintes femmes, avec 50 kilos de myrrhe et d'aromates pour encenser le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont encore des parfums, et cette fois-ci, elle comprend que ce n'est plus nécessaire parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus mort, il est ressuscité. Il a maintenant un corps glorieux. Ayant un corps glorieux, elle ne peut plus évidemment verser le parfum de ce parfum sur ses pieds ou sur sa tête. Mais elle va à ce moment-là se préparer à jouir dans toute l'éternité de la gloire de Dieu au ciel. Par les pieds du Seigneur, on peut encore entendre le mystère de l'incarnation. Nous répandons des parfums sur ses pieds lorsque nous annonçons la puissance de son humanité par la bonne renommée de la parole sainte. Donc, les pieds représentent l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le mystère de l'incarnation qui amène au mystère de la rédemption. Donc, en versant des parfums sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Marie-Madeleine, va annoncer justement qu'elle croit en l'incarnation, qu'elle croit en l'union dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la deuxième personne de la Sainte Trinité, qu'elle croit en l'union entre l'humanité et la divinité. Donc, elle s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, verse le parfum sur ses pieds, comme marque de foi en son incarnation, et en même temps elle pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle croit aussi en sa divinité. Elle ne croit pas simplement en son humanité, elle croit aussi en sa divinité, et elle sait que cette humanité souffrante va arriver au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et là qu'elle va obtenir le pardon de ses péchés. Donc l'incarnation mène à la rédemption. On voit très bien entre Seigneur Jésus-Christ, donc une union étroite entre, dans la même personne, de la nature humaine, de la nature divine. Donc, Sainte Marie-Madeleine est autorisée à toucher la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ pour arriver à la nature divine. Ce spectacle, disent les pères, remplit le pharisien de jalousie. En effet, lorsque le peuple juif voit les gentils devenir les prédicateurs du vrai Dieu, il sèche d'envie dans sa noire méchanceté. Ce peuple infidèle ne donna pas non plus le baiser à Dieu, parce qu'au lieu de l'aimer par un sentiment de charité, il aima mieux le servir sous l'impression de la crainte, faire le baiser le signe de l'amour. Et donc, au lieu de faire ce que Sainte Marie-Madeleine a fait, les Juifs, au moins ceux qui ont refusé de se convertir, ne vont pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont mépriser notre Seigneur Jésus-Christ, et au lieu de le reconnaître dans son incarnation et dans sa rédemption, eh bien, ils vont le refuser. C'est ça le drame du peuple juif, d'avoir refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Et ayant refusé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils ne peuvent pas ouvrir la porte du paradis. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte du paradis parce qu'ils n'ont pas accepté l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ qui amène à la rédemption. Refusant l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'ils l'ont crucifié, eh bien, ils refusent la rédemption et donc ils refusent leur salut. Ils ne peuvent pas se sauver. Alors, mes bien chers frères, prenons grand soin à nous de ne pas faire la même chose. C'est encore bien plus grave pour un catholique de refuser notre Seigneur Jésus-Christ et d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ par un péché mortel que pour un juif d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les juifs ne sont pas baptisés, donc ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, bien sûr, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous, au contraire, nous sommes enfants de Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va beaucoup plus souffrir des souffrances qui lui sont données par un de ses enfants, qui est créature et enfant de Dieu, que des mêmes souffrances qui lui sont données par quelqu'un qui n'est pas un de ses enfants, tout en étant une de ses créatures. Le fait que nous soyons enfants de Dieu par le baptême fait que nous avons des obligations supplémentaires de manifester notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus reproche aux pharisiens de n'avoir pas répandu de parfum sur sa tête. C'est-à-dire que le peuple juif a refusé à la puissance divine à laquelle il se vantait de croire le juste tribut de louange qui lui était dû. Marie-Madeleine, au contraire, a répandu les parfums sur les pieds du Sauveur et figure en cela la gentilité qui, non contente de croire au mystère de l'incarnation, a relevé par les plus grands éloges les profondes humiliations de ce mystère. Et Simon ne va pas voir justement le travail de la grâce dans l'âme de cette pécheresse qu'il méprise au fond de lui-même, alors que cette pécheresse est devenue bien plus grande que lui. Faisons attention, mes bien chers frères, nous aussi, de ne pas tomber dans ce péché d'orgueil, parce que le pharisien représente l'orgueil, et l'orgueil empêche de s'approcher des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette Marie-Madeleine a-t-elle pu s'approcher des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que justement, elle avait la vertu d'humilité. Mais si je n'ai pas la vertu d'humilité, je ne peux pas m'approcher des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je ne peux pas toucher les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas prétendre arriver un jour à la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pieds, c'est la pénitence. La tête, c'est la voie unitive, l'union dans la gloire. Donc je passe par les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, par la voie purgative, pour arriver à la tête, c'est-à-dire à la voie unitive. Donc je pars de la pénitence nécessaire pour s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple dans la grotte de Bethléem, mais je vais aussi passer après par la souffrance du calvaire et arriver au ciel où le bon Dieu m'attend. Alors, autre explication des pères qui sont très belles, la page 14 en bas de la page. L'Église catholique seule a le privilège de la composition de ce parfum précieux, elle qui possède d'innombrables fleurs exhalant des odeurs si variées. Aussi, personne ne peut prétendre à un si grand amour que l'Église qui aime par le cœur de tous ses enfants. Donc le parfum versé par les mains de Sainte Marie-Madeleine sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ représente l'ensemble des grâces, si vous voulez, que l'Église catholique va obtenir au pied de la croix. L'Église seule donc a le privilège de la composition de ce parfum, et donc l'Église va préparer ce parfum pour qu'il puisse être répandu sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qui se passe au confessionnal. Au confessionnal, l'Église donne aux pénitents
qui accuse ses péchés avec humilité, qui remplit les, qui accepte de venir au confessionnal avec la matière du sacrement, c'est la contrition, l'accusation, la réparation. Donc il va recevoir à son le parfum, qu'il va aller après verser au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour la Sainte Communion. La confession amène à la communion. Donc je commence par verser le parfum sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le symbole du sacrement de pénitence, la confession, pour arriver à verser après le même parfum sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire là, c'est le symbole de l'union entre Seigneur Jésus-Christ pour la Sainte Eucharistie. Donc les deux débiteurs, on va parler notre Seigneur Jésus-Christ, on va voir ça un petit peu plus loin, ce verset 41, il va parler Simon qui ne comprend, le pharisien qui ne comprend pas. Il se dit, si cet homme était prophète, il saurait certainement qui, de quelle espèce est la femme qui le touche. Alors, c'est une pécheresse. Alors Jésus va donner une leçon à Simon. Simon, j'ai quelque chose à vous dire. Il répondit, maître, dites. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50, et comme il n'avait pas de quoi les rendre, il les remit à tous deux leur dette, lequel donc l'aimera davantage. Je pense, dit Simon, que c'est celui auquel il a remis davantage. Jésus lui dit, vous avez bien jugé. Donc les deux débiteurs sont les deux peuples, tous deux obligés à l'égard du créancier du trésor céleste, le peuple des gentils, le peuple des juifs. Ce n'est point une somme d'argent matériel que nous devons à ce divin créancier, mais l'or pur de nos mérites, l'argent de nos vertus, dont la valeur consiste dans le poids de caractère et la gravité des mœurs, dans l'empreinte de la justice, dans le son que fait entendre la confession. Donc il faut savoir venir nous présenter au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si je dois une somme énorme, même si je dois 500 deniers, c'est-à-dire si j'ai beaucoup, beaucoup de péchés mortels sur la conscience, le bon Dieu me pardonne. Si j'en ai peu, je n'ai que 50 deniers, eh bien le bon Dieu me pardonne aussi. Parce qu'étant Dieu, il peut pardonner tous les péchés du monde, même si j'ai commis tous les péchés qui se peuvent commettre, disait Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, eh bien, j'irai me jeter dans le Sacré-Cœur, et tous mes péchés deviendront comme une petite goutte d'eau jetée dans un grand brasier. Vous jetez une goutte d'eau dans un grand feu, immédiatement, elle est transformée en vapeur, elle disparaît. Donc ne nous décourageons jamais, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est prêt à pardonner celui qui lui doit 500 deniers. Donc il est prêt à pardonner même le plus grand des pécheurs, à condition que ce dernier regrette évidemment ce qu'il a fait. Puisque nous n'avons rien qui soit digne d'être offert à Dieu, malheur à moi si je ne lui donne tout mon amour. Payons donc nos dettes en aimant Dieu de tout notre cœur, car celui qui a reçu plus de grâce va aussi donner plus d'amour. Plus j'ai péché, plus j'ai besoin de la miséricorde du bon Dieu. Il faut bien comprendre, c'est un grand mystère, que le bon Dieu aime davantage un gros pécheur qu'un petit pécheur. Parce que le gros pécheur a plus besoin de la miséricorde du bon Dieu qu'un petit pécheur. Donc Dieu va exercer davantage son amour pour le gros pécheur que pour le petit pécheur. Mais celui qui était un gros pécheur qui a été pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ doit plus marquer son amour pour ce dernier qu'un petit pécheur qui avait peu à se faire pardonner. Donc celui qui a reçu plus de grâce doit aussi donner plus d'amour. Et c'est ce que va faire Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine va vraiment montrer son degré d'amour, elle va devenir une très grande sainte, parce que bien qu'elle ait beaucoup péché, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Faisons la même chose. Si nous avons imité notre Sainte Marie-Madeleine par le péché de sa vie passée, eh bien imitons-la maintenant par le degré d'amour qu'elle a eu après à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Offrons nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ souhaite recevoir nos péchés en cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Rappelez-vous la parabole que j'ai déjà expliquée avec l'histoire avec Saint Jérôme. Notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît à Saint Jérôme et qui lui demande un cadeau pour Noël. Et qu'est-ce qu'il voulait comme cadeau de Saint Jérôme, qui ne pensait pas à ça, qui pensait à toute autre chose, à lui donner toutes les choses qu'il avait faites, tous les livres extraordinaires qu'il avait écrits. Notre Seigneur va dire à Saint Jérôme, donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. Il y a la dernière chose qu'on penserait offrir à notre Seigneur. Pourtant, c'est ce que nous demande notre Seigneur. Le bon Dieu veut recevoir de nous nos péchés et pour pouvoir nous les enlever. La plus grande joie du bon Dieu, le plus grand plaisir qu'éprouve notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de pardonner aux pécheurs repentants. Passons à la page 15, versets 39 et 40. Donc je les ai déjà cités, je relis rapidement. Le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait certainement qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Mais il ne se rend pas compte qu'elle n'est plus pécheresse. Simon le pharisien était trompé, car il jugeait sur le passé, non sur le présent. Il ne pouvait pas deviner, il ne pouvait pas voir que cette âme était complètement transformée. On voit très bien la transformation extrêmement rapide chez Sainte Marie-Madeleine. Chez beaucoup de saints, ça a pris du temps pour se convertir. Regardez Saint Augustin, combien d'années il lui a fallu pour quitter complètement les plaisirs coupables et la femme avec laquelle il vivait hors mariage. Ça lui a pris beaucoup de temps. Mais Sainte Marie-Madeleine est une sainte extraordinaire, encore plus extraordinaire, parce que précisément, elle s'est convertie d'un seul bloc, d'un seul coup. En quelques minutes, littéralement, elle a été convertie en attendant un sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, se précipite immédiatement à ses pieds et elle est tout de suite pardonnée. Donc, notre Seigneur qui va expliquer, dans sa charité, va expliquer à Simon, le pharisien, qui ne comprend toujours pas. Alors, il donne l'exemple de ces deux débiteurs. Un gros débiteur qui devait 500 deniers et l'autre qui devait 50 deniers, donc 10 fois moins. Donc ceux qui doivent de l'argent sont ceux qui doivent au banquier divin, non de l'argent matériel, mais un retour des bonnes œuvres et de vertus. Nos dettes sont donc nos péchés. Les deux personnes endettées sont Sainte Marie-Madeleine et Simon. Et Sainte Marie-Madeleine va être pardonnée, alors qu'au contraire, Simon va pas chercher de pardonner, parce qu'il se rend même pas compte de ses propres péchés. Il ne voit que les péchés prétendus de celle qui est aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et qui verse son parfum sur les pieds de notre Seigneur. Il voit même pas ses propres péchés. C'est bien grâce à Dieu que nous sommes gardés du péché. On voit très bien, là encore une fois, c'est un exemple de la gratuité de la miséricorde du bon Dieu. Dieu va exercer sa miséricorde à l'égard de Sainte Marie-Madeleine qui devait 500 deniers, et il ne va pas l'exercer à l'égard du pharisien qui lui ne devait peut-être que 50 deniers. Donc, il n'y a pas un seul péché commis par quelqu'un que nous puissions commettre nous-mêmes si Dieu nous retire son aide. Il faut bien se rappeler cette phrase des pères qui était fondamentale à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas un seul péché que l'autre et le prochain est commis que je ne sois pas capable, moi aussi, de commettre. Et si le bon Dieu n'avait pas eu pitié de moi de façon extraordinaire, je commettrais encore plus de péchés que le prochain. Et si le prochain avait reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues, grâce de conversion, grâce de pardon, sans doute que le prochain serait 10 fois plus saint que moi. Alors pourquoi le bon Dieu a-t-il exercé sa miséricorde à mon égard et ne va-t-il pas l'exercer à l'égard des autres personnes autour de lui? Ça, c'est le mystère de la miséricorde du bon Dieu. L'exemple classique, c'est les deux larrons qui sont au pied de la croix. Ils sont pourtant tous les deux tout proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le bon Dieu va pardonner à Saint Dismas, va donner à Saint Dismas la grâce du pardon. Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Et par contre, il ne va pas donner cette grâce de pardon, cette grâce de conversion à Gestas, le mauvais larron, qui lui va se retrouver en enfer. Voyons, cela doit nous aider à comprendre à quel point nous dépendons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Comme il n'avait pas de quoi les rendre, verset 42-43, chapitre 7 de Saint-Luc, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel donc les aimera davantage? Celui qui devait 500 deniers, celui qui devait 50? Simon répondit, je pense que c'est celui auquel il a remis davantage. Jésus lui dit, vous avez bien jugé. Plus cette femme m'aime, dit notre Seigneur, me manifeste son amour, et plus je pardonne. Et on voit là le degré extraordinaire de la charité de Sainte Marie-Madeleine. Cela doit nous réconforter, même si j'ai énormément de péchés à me faire pardonner, le bon Dieu pardonne. On voit souvent ça quand on prêche les exercices de Saint Ignace, c'est des gens qui parfois ne sont pas confessés depuis très longtemps. Alors ils préparent la confession générale et puis ils sont un peu paniqués en disant « Monsieur l'abbé, j'ai 15 pages de péché, je vais faire quoi me présenter? Comment puis-je pouvoir me présenter décemment devant notre Seigneur Jésus-Christ avec 15 pages de péché ?» Et j'explique à cette personne que le bon Dieu vous aime plus parce que vous avez 15 pages de péché qui n'aime une personne qui n'a que deux pages de péché. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour les gros pécheurs, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour les malades. Donc ne vous découragez pas. Versets 44 à 46 du chapitre 7. Se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Voyez-vous cette femme ? Je suis entré dans votre maison, vous n'avez pas versé d'eau sur mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Vous ne m'avez point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle ne cessait pas d'embrasser mes pieds. Vous n'avez pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. » Et Simon ne voit pas tout ça. Pourquoi il est incapable de voir tout ça? À cause de son orgueil? Au contraire, Sainte Marie-Madeleine a compris la miséricorde incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ qui était à sa disposition. Elle voyait en quelque sorte devant elle, littéralement, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ s'ouvrir tout grand pour elle. Elle se précipite dans ce Sacré-Cœur. Alors que Simon, à cause de son orgueil, est incapable de voir ce Sacré-Cœur, il ne va même pas chercher à y rentrer. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain, c'est exactement la même histoire. Le publicain qui est plein lui-même ressort du temple, il n'est pas pardonné, alors que le pharisien ressort du temple non pardonné parce qu'il était plein d'orgueil. Au contraire, le publicain qui est plein d'humilité va être pardonné. Ici, une explication des pères. Il est facile d'apporter de l'eau, mais difficile de faire couler une telle abondance de larmes. Ce n'est pas simplement d'apporter de l'eau pour laver les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas avoir ses pieds lavés par l'eau qui vient directement du robinet. Il veut avoir ses pieds lavés par les larmes qui viennent de notre cœur contrit, un cœur broyé par le repentir. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. C'est ce que nous fait dire notre Seigneur Jésus-Christ dans les litanies du Sacré-Cœur. Versets 47, 48, 49, en bas de la page 15. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'il a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et à elle, il dit, vos péchés sont pardonnés. Et les convives se mirent à se dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui m'aime pardonne les péchés? Qui est celui qui a l'autorité non seulement de guérir les corps, parce qu'ils avaient vu notre Seigneur faire plusieurs miracles déjà auparavant, mais quel est celui qui a même le pouvoir de pardonner les péchés? Là, on a une des plus belles phrases de l'Évangile. Beaucoup lui sera pardonné parce qu'il a beaucoup aimé. Il sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé. Son amour est proportionné à ça. L'intensité de son amour est proportionnée au nombre de ses péchés. Eh bien, si je fais partie de ceux qui ont beaucoup offensé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faut que je rattrape ça par amour. C'est ce que souvent on entend ces phrases-là après les confessions générales des retraites. Se lever, comment je peux rattraper maintenant? Je réponds toujours la même chose, rattraper par l'amour de Dieu. Aimez notre Seigneur Jésus-Christ de plus en plus pour rattraper justement vos péchés passés. Et tous vos péchés passés disparaissent. C'est quand notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés ne se contentent pas d'être disparus. Ils ne se contentent pas d'effacer les péchés. Il oublie les péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, a le pouvoir d'oublier les offenses. Nous, on ne peut pas. Pratiquement impossible pour un homme d'oublier les offenses graves qui lui ont été faites. Il peut les pardonner du fond du cœur. Il peut plus y penser, mais il ne peut pas les oublier complètement, c'est impossible. Page 16. Une certaine vierge qui était tombée dans le péché a davantage plu au Seigneur dans sa pénitence que dans sa pureté intérieure. Le Christ ne dit pas, prenez par ses actes d'amour que ses péchés sont pardonnés, mais au contraire, ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc quelqu'un qui a beaucoup péché doit rattraper ses péchés passés par un grand degré d'amour. Et plus le bon Dieu nous a pardonné, plus nous sommes débiteurs. Et donc plus nous devons rattraper nos péchés passés par beaucoup d'amour. Certains pères vont jusqu'à dire que notre Seigneur Jésus-Christ a rendu à Sainte Marie-Madeleine les grâces de la virginité. Il ne peut pas détruire. Notre Seigneur Jésus-Christ peut pardonner les péchés, mais il ne peut pas faire que le péché passé n'ait pas existé. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Il ne peut pas faire, par exemple, que Napoléon n'ait pas existé. Napoléon a existé. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire que les péchés que nous avons commis dans le passé n'existent pas, puisqu'ils ont existé malheureusement. Mais il peut les oublier complètement, c'est ce qu'il va faire. Verset 50 du chapitre 7, en haut de la page 16. Jésus dit à la femme, votre foi vous a sauvé, allez en paix. Dans un autre passage, il a dit, votre foi vous a sauvé, allez en paix et ne péchez plus. C'est-à-dire que pour pouvoir conserver votre paix, vous allez devoir justement faire attention de ne pas pécher. Parce que lorsqu'on a reçu des grâces de lumière de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, comme ici Sainte Marie-Madeleine, eh bien, plus j'ai reçu des grâces de lumière, plus je dois aimer notre Seigneur Jésus-Christ en remerciement pour ces lumières que j'ai reçues. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup des plus grands saints de l'Église sont les plus grands pécheurs. D'où l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, et aussi l'exemple de Saint Augustin, et toute une série d'autres saints qui ont été des grands offenseurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus j'ai péché, plus je dois aimer. Et rattraper mes péchés passés par l'amour. Apprenez de Sainte Marie-Madeleine aux pécheurs à pleurer sur l'absence de Dieu dans votre âme afin de chercher de nouveau sa présence. Apprenez de Marie à aimer Jésus, d'espérer en lui, de le chercher pour le trouver. Apprenez d'elle à ne pas craindre l'opposition, refuser d'être consolé sans lui, considérer toutes les choses comme vénales pour le posséder. Voyez le pouvoir de la grâce et l'amour du Christ. N'oublions pas que toutes les grâces viennent par ta Sainte Vierge Marie. Donc la grâce de la conversion de Sainte Marie-Madeleine, c'est un fruit de l'amour de notre Sainte Vierge Marie pour son Fils. Hein. Pour ça que c'est elle qui a indiqué à Sainte Marie-Madeleine qui cherchait à voir notre Seigneur, c'est elle qui a dû lui indiquer le chemin pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est son rôle, le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie, c'est celle qui indique le chemin du Sacré-Cœur. On le voit très bien avec Saint Jean, c'est elle qui va prendre Saint Jean par la main pour l'amener au pied de la croix, parce que Saint Jean était comme les autres disciples, les autres apôtres, il avait peur d'être là. C'est pour ça que tous les autres apôtres vont se sauver comme des lapins, et Saint Jean était l'un d'entre eux. C'est la Sainte Vierge, aller rechercher Saint Jean. Chercher Saint Jean, le prendre par la main pour l'amener à la croix, parce qu'elle voulait qu'il y ait au moins un apôtre qui soit là. La plupart des pères de l'Église grecque, presque toute la critique protestante et janséniste, voit trois personnes distinctes dans les différentes mentions du lavement du fait qu'une femme soit venue verser son parfum précieux sur les pieds et puis sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc certains pères de l'Église grecque pensent qu'il y a deux personnes différentes, mais toute la tradition de l'Église latine fait une seule personne de la pécheresse convertie, de Sainte Marie-Madeleine et de Marie de Béthanie, c'est la même. Marie de Béthanie, c'est Sainte Marie-Madeleine, parce que Béthanie, c'était le lieu où habitait Sainte Marthe, mais Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare. Donc, on a le droit, il ne serait pas hérétique de penser que Marie-Madeleine et Marie-Béthanie et la pécheresse convertie sont trois personnes différentes. Non, ce n'est pas la tradition de l'Église. Il vaut mieux suivre, et plus sûr de suivre les pères là-dessus, mais tout en sachant que tous les pères ne sont pas d'accord là-dessus, les pères grecs, ayant une opinion différente des pères latins. Saint Augustin nous dit que là où il n'y a point d'amour, notre convoitise mauvaise ne peut pas être enlevée. La crainte ne fait que la réprimer un moment. Celui qui n'a que la crainte de l'enfer craint de brûler et non de pécher. Ça veut dire quoi ça veut dire que si l'unique raison pour laquelle j'évite le péché, c'est la crainte de l'enfer, ça risque de ne pas durer trop longtemps. En fait, on vise la contrition parfaite. C'est un des reproches qu'on fait aux exercices de Saint-Ignace, reproche qui est fait par les gens qu'ils n'ont jamais suivi, qui prétendent que l'exercice de Saint-Ignace ne parle que de l'enfer. C'est complètement faux. Les exercices de Saint-Ignace, dans la première partie des exercices qui correspond à la voie purgative, c'est vrai, parle beaucoup de l'enfer, va parler de l'enfer, des conséquences du péché, le péché, les conséquences du péché, la mort, les jugements, l'enfer, etc. Mais Saint-Ignace nous dit bien qu'il est préférable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par amour. Si je ne suis pas capable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par amour, alors notre Seigneur Jésus-Christ va m'obliger à le suivre par crainte. Et au mieux suivre notre Seigneur Jésus-Christ et aller au ciel par crainte, plutôt que de ne pas avoir de crainte du tout, pas avoir d'amour du tout, et de rater la porte. Je me rappelle cette phrase magnifique des exercices, au cinquième exercice de Saint-Ignace, qui est certainement la plus belle phrase, des exercices. Si mes fautes ne me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne point tomber dans le péché. Et en fait, ce qu'on vise, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Saint Thomas d'Aquin va enseigner que quelqu'un qui se confesse avec une simple contrition imparfaite, une attrition, il regarde ses péchés par pure peur de l'enfer, c'est tout. Eh bien, l'absolution du prêtre, le moment précis où le prêtre donne l'absolution à ce pécheur qui vient se confesser uniquement par peur de l'enfer, eh bien, cette absolution va transformer l'attrition en contrition parfaite. Attritus fit, contritus per sacramentum. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire la contrition imparfaite, la peur de l'enfer, va transformer en contrition parfaite par l'absolution du prêtre. Et donc, quelqu'un qui rentre au confessionnal avec le minimum, hein, le minimum, c'est la contrition, l'accusation et la réparation. Mais quelqu'un qui a contrition, accusation et réparation avec uniquement la peur de l'enfer, va sortir du confessionnal avec, cette fois-ci, une contrition parfaite. Et s'il a une contrition parfaite vraiment pleine, un grand degré de contrition parfaite, non seulement il aura tous ses péchés pardonnés, mais il aura aussi toutes les peines du purgatoire détruites. Et attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on se confesse, toutes les peines du purgatoire sont détruites. C'est pas ça, parce que tout va dépendre d'un degré d'amour, d'un degré de contrition. Mais si je me confesse même de beaucoup de péchés avec un très grand degré de contrition, je peux obtenir le pardon de toutes les peines temporelles. Des péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire je peux obtenir le pardon des peines du purgatoire. Et donc je vais quitter le confessionnal, non seulement sans péché sur la conscience, mes péchés auront été enlevés, effacés par l'absolution sacerdotale, mais en plus, je vais pouvoir perdre, avoir détruit en même temps toutes les peines du purgatoire connectées à mes péchés. Et je dis souvent aux retraitants qui sont un petit peu effrayés de leur péché, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez vous confesser tous vos péchés passés, vous avez préparé une grosse confession générale, mais vous avez été préparé pendant 2 jours et demi par Saint Ignace de Loyola et par la miséricorde du bon Dieu, et bien vous êtes dans les meilleures dispositions pour brûler non seulement tous vos péchés, mais brûler aussi toutes les peines du purgatoire connectées à ce péché, à ces péchés. Et c'est pour ça qu'à la fin des exercices de Saint Ignace, l'Église autorise toute personne qui a su une retraite fermée d'au moins 5 jours de recevoir une indulgence plénière. Et à la fin des exercices de Saint Ignace, le prêtre prend grand soin de donner une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale, c'est-à-dire la bénédiction que le pape donnerait s'il était là. Et par cette bénédiction papale, on peut obtenir la destruction de toutes les peines temporelles dues au péché et de toutes les peines du purgatoire. Bon, Dieu seul sait si cette personne, ce pénitent, ce retraitant a reçu cette grâce. C'est une grâce quand même extraordinaire, qui est difficile à obtenir parce que pour pouvoir gagner une indulgence plénière, il faut être détaché bien sûr du péché mortel, mais il faut aussi être détaché du péché véniel, ce qui n'est pas évident. Cependant, bon Dieu dans sa miséricorde peut donner cette grâce et certainement à la fin des exercices, vous êtes dans les meilleures dispositions pour gagner cette indulgence plénière. Donc apprenez de la Très Sainte Vierge Marie, apprenez de Marie à aimer Jésus, d'espérer en lui, de le chercher pour le trouver. Notre Seigneur l'a dit, cherchez, vous trouverez, demandez et on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc ne laissez la crainte diminuer qu'à mesure qu'elle sera remplacée par l'amour, dit saint Augustin, car autrement elle ne s'en irait que pour être remplacée par l'orgueil. Donc l'amour ne peut trouver sa place que dans la mesure où la crainte a commencé à préparer le terrain pour l'amour. Donc la crainte entraîne l'amour et donc la destruction du péché. Par contre, l'orgueil est comme une porte de fer qui se ferme et qui empêche le bon Dieu de rentrer dans cette âme. Je répète cette phrase très belle des pères, ne laissez la crainte diminuer qu'à mesure qu'elle sera remplacée par l'amour, car autrement ne s'en irait que pour être remplacée par l'orgueil. Donc, ayons le courage de nous précipiter aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. autre explication des pères qui avait déjà été utilisée, cette explication a déjà été donnée un peu auparavant, par les pieds du Christ, c'est Saint Grégoire qui parle. Nous pouvons entendre l'incarnation du Fils de Dieu, ce mystère par lequel le Fils de Dieu touche la terre. Et nous baisons les pieds du Sauveur quand nous nous attachons de tout cœur à ce mystère. Nous les couvrons de parfums quand nous faisons rayonner la vertu de son humanité sainte. Vous donc qui êtes dans le péché, dit Saint Ambroise, vous pouvez avoir un parfum, le parfum de la pénitence. Nous avons déjà vu en page 14 une phrase presque identique des autres pères. Par les pieds du Sauveur, on peut encore entendre le mystère de l'incarnation, ça c'est commun à ces deux pères. Et nous répandons des parfums sur ses pieds lorsque nous annonçons la puissance de son humanité par la bonne renommée de la parole sainte. Là, la phrase est légèrement différente, c'est pour ça que j'ai mis les deux phrases. Autre phrase des pères. Après la Vierge Marie, dont la sainteté est suréminente, l'Église honore Marie-Madeleine, la pécheresse repentante, comme la plus sainte des femmes. C'est pour cela que la dévotion à la Sainte Vierge Marie, le culte à la Sainte Vierge Marie a un nom spécial. On appelle ça le culte de l'hyperdulie. Le culte, par exemple, que nous devons à Sainte Marie-Madeleine, c'est un culte de dulie. Au contraire, le culte que nous devons à notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un culte de vénération comme celui que nous devons avoir à l'égard de la Sainte Vierge Marie ou de Sainte Marie-Madeleine, c'est un culte d'adoration, ce qu'on appelle le culte de latrie. Culte de latrie pour notre Seigneur Jésus-Christ, culte de dulie pour tous les saints, et pour la Sainte Vierge Marie, dont la sainteté est suréminente, l'Église honore avec un culte qu'on appelle un culte d'hyperdulie. Donc il y a une dévotion, un amour supplémentaire qu'on doit avoir pour la Sainte Vierge Marie parce qu'elle est la mère du Sauveur. Alors il faut souvent méditer là-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on se précipite à ses pieds pour embrasser ses pieds, et qu'on utilise donc le mystère de l'incarnation. À chaque fois que j'embrasse les pieds du Seigneur du Sauveur, à chaque fois que je verse le parfum de ma pénitence, la vertu de pénitence sur les pieds du Seigneur du Sauveur, je reconnais son incarnation, et reconnaissant son incarnation, j'ouvre la porte à la rédemption. C'est là que les pieds du Christ, qui représente le sacrement de pénitence, nous amène par l'incarnation à l'autel, c'est-à-dire à la Sainte Eucharistie. La voie purgative amène à la voie illuminative, puis à la voie unitive. L'âme arrivée à une plus grande perfection, c'est Origène qui parle là, aura confiance d'atteindre la tête du Christ et de répandre sur elle son parfum, c'est-à-dire de donner au Verbe de Dieu le culte qui lui convient et de faire resplendir sa gloire divine. Donc on commence par couvrir les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ de nos affections pour espérer un jour pouvoir manifester la même chose envers la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ représentent le calvaire, représentent la croix. La tête de notre Seigneur Jésus-Christ représente le ciel. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit « Lorsque je serai élevé de ciel, j'attirerai tout à moi ». Il faut donc que nous, pécheurs, nous commencions par les pieds et que nous les arrosions de nos larmes. Ce serait une témérité d'aller aux choses les plus élevées avant d'avoir baisé ses pieds. Pour pouvoir lui offrir un vrai parfum, il faut commencer par la pénitence. Pour cela, on voit très bien chez Sainte Marie-Madeleine, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est capital à comprendre, Sainte Marie-Madeleine n'est pas allée directement à la tête de notre Seigneur, elle va d'abord aux pieds. Il faut commencer par la pénitence, disent les pères, avant de pouvoir offrir le parfum à la tête, c'est-à-dire à la divinité. Donc on reconnaît d'abord l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. On offre notre premier parfum à l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cela va nous ouvrir la porte à une deuxième effusion de parfum, cette fois-ci sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur la divinité. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ amène à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une humanité souffrante. On ne peut pas atteindre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sans passer par l'humanité, c'est-à-dire par la souffrance. On ne peut pas atteindre la voie unitive sans passer d'abord par la voie purgative. Je répète cette phrase qui est très belle. Ce serait une témérité donc d'aller aux choses les plus élevées avant d'avoir baisé ses pieds. Pour pouvoir lui offrir un vrai parfum, il faut commencer par la pénitence. Je rappelle, dans le séminaire des cônes, c'est très important ça. Monseigneur Lefebvre ne voulait pas qu'on commence directement l'étude de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il voulait d'abord qu'on passe par une année de spiritualité. Nous, on appelait ça la machine à laver. Une année de spiritualité pour nous purifier suffisamment pour que nous puissions atteindre à ce moment-là les mystères de la haute théologie. Il fallait d'abord commencer par l'année de spiritualité qui était une année d'épreuve, une année de pénitence. Il y avait beaucoup de pénitence, beaucoup de travail manuel par exemple, qui justement, le travail manuel n'a pas son pareil pour soumettre en quelque sorte le corps à l'âme. Et une fois que cette soumission était faite, à ce moment-là, nous pouvions aller plus loin, aller plus haut. Voilà, nous avons terminé le chapitre 7. Je vais commencer quand même un peu le chapitre 8, puisque j'ai encore un petit peu de temps. J'essaie de ne pas dépasser l'heure, mais j'ai en même temps de vous donner au moins une heure de cours. J'ai un peu de matière à travailler. Alors, chapitre 8 de Saint-Luc, donc, nous en sommes maintenant à la page 17 du polycopier. Chapitre 8, versets 1, 2 et 3. Il arriva ensuite que Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu, et les douze étaient avec lui. Comme aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle sept démons étaient sortis. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres qui l'assistaient de leur bien. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est entouré de, pas seulement des apôtres, mais il y avait souvent aussi des disciples et des saintes femmes avec eux qui allaient s'occuper d'assister notre Seigneur Jésus-Christ et les douze apôtres. Il fallait quand même nourrir ces douze apôtres qui devaient bien manger. Il fallait s'occuper de leurs vêtements, ils savaient s'occuper de réparer les vêtements qui étaient déchirés par les courses apostoliques. Et bien, ces femmes, Sainte Marie Madeleine, Suzanne, Jeanne, dont parle ici l'évangile, eh bien, t'es là pour rendre ce service très humble à notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Sainte Vierge Marie, qui elle aussi était là. Donc, les sept démons dont il est parlé au verset 2, Madeleine, de laquelle sept démons étaient sortis, représente les sept péchés capitaux. Ça représente en fait l'universalité des péchés. Sept représente l'universalité, la totalité. C'est pour montrer que Sainte Marie Madeleine, avant sa conversion, était possédée de tous les péchés. C'est le symbole de la multitude et de la totalité. Donc, Sainte Marie Madeleine avait donc en elle tous les vices. Donc ces deux femmes, ici dont il est parlé, Jeanne et Suzanne, suivez notre Seigneur par gratitude, par leur guérison, par sécurité, afin de ne pas être possédé, pour progresser en piété et en sainteté. Une fois qu'on est converti, qu'on a pu faire une bonne confession, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas se dire, bon, maintenant je suis converti, ça va, je me débrouille tout seul, j'ai plus besoin de notre Seigneur. Non. On a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer. Pour cela que saint Thomas explique que dans le don de force, dans la vertu de force, mais il y a l'agrédit, le sustinere. L'agrédit, c'est qu'il faut se battre, ça va correspondre à un travail de conversion. Conversion, une bonne confession générale, ça c'est l'agrédit, parce que tu es agressif contre le péché. Mais une fois qu'on est pardonné par le bon Dieu, il faut soutenir, le combat. Et c'est beaucoup plus difficile de soutenir l'état de grâce que de se convertir. Donner un coup de collier pour se convertir, beaucoup de gens sont capables de le faire avec la grâce du bon Dieu. Mais continuer le combat, une fois qu'on est converti, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Donc, si Marie-Madeleine, purifiée de la souillure de ses vices, représente l'Église des nations, pourquoi Jeanne ne serait-elle pas aussi la figure de cette même Église, autrefois livrée au culte des idoles? Donc, tous les convertis, ils sont les symboles de l'Église catholique à laquelle ils appartiennent par leur conversion, par leur baptême. Donc, tout malin esprit qui travaille à l'extension du royaume du démon est comme l'intendant de la maison d'Hérode. Maison d'Hérode, ce qui s'oppose à la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit malin suit la maison d'Hérode parce que l'esprit malin travaille avec le démon, alors qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ attire à lui le bon esprit. Les pères font remarquer que le mot Suzanne, il est parlé au verset 3 du chapitre 8, Suzanne signifie loi ou grâce à cause de la blancheur odoriférante d'une vie céleste et de la flamme d'or de la charité intérieure. Avançons dans ce chapitre 8, versets 4 à 10. Comme une grande foule s'était assemblée et qu'on accourait des villes auprès de lui, Jésus dit en parabole, « Celui qui sème alla semer sa semence, et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. » Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, ayant levé, elle porta du fruit au centuple. Et en disant cela, il criait, que celui-là entende, qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ensuite ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais aux autres, il n'est proposé qu'en parabole, afin que, regardant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. Cette parabole est très connue. La semence, cette semence qui est jetée par le semeur dans le champ, et une partie de la semence va tomber le long du chemin, et puis une partie va tomber sur la pierre, une partie dans les épines, et enfin une partie va tomber dans la bonne terre. C'est évidemment tout le symbole du travail de la grâce. Ce Seigneur Jésus-Christ nous montre par cette parabole que la grâce peut malheureusement tomber sur la pierre, sur le long du chemin ou dans les épines ou ailleurs que sur le bon champ, et à ce moment-là elle ne va pas pouvoir porter du fruit, elle ne va pas pouvoir fructifier, elle va se dessécher ou être mangée par les oiseaux du ciel, c'est-à-dire mangée par les démons, détruite par le démon. Alors il faut donc préparer notre cœur et s'arranger pour que notre cœur soit toujours un champ parfait état de recevoir la semence. Un champ, il ne faut pas le laisser inculte. Si je laisse inculte, la terre va durcir et la semence ne pourra pas germer. On va verser la semence, mais si la terre n'a pas été ameublie par le sillon qui a été creusé, eh bien, la carapace dure au-dessus de la terre va empêcher la semence de germer. Et du coup, la semence va rester sur la croûte dure de terre et les oiseaux du ciel vont venir tout manger. Au contraire, si les herbes folles ont été enlevées, si les sillons ont été préparés, si la terre a été ramollie, si les pierres ont été enlevées, alors à ce moment-là, la semence de la grâce peut trouver ce terrain d'atterrissage et donner du fruit de façon extraordinaire, soit à 30, soit à 60, soit à 100%. On peut comparer la grâce du bon Dieu un peu de façon moderne, c'est une comparaison de Monseigneur l'abbé Williamson en cours, je me rappelle. Il comparait la grâce à un hélicoptère. Il disait, pour que l'hélicoptère puisse atterrir, il faut un minimum de terrain d'atterrissage, même tout petit, parce que un hélicoptère n'a pas besoin d'une piste pour s'envoler, mais il a besoin d'un minimum. S'il y a des arbres partout, il ne peut pas atterrir. Il faut donc couper les arbres. Il faut qu'il y ait un minimum de clairière pour qu'il puisse se poser sans que les pales risquent de se prendre aux branches et exploser l'appareil. Mais donc, il faut se préparer. Donc pour entendre correctement la parole de Dieu, il faut plusieurs choses, disent les pères, en bas à la page 17 sur le polycopier. Il faut une place préparée pour la recevoir, un cœur bon et honnête. Il faut aussi une bonne disposition pour garder la parole après l'avoir entendue. Et comme conséquence, un fruit apporté par la patience. Il faut d'abord un cœur bon et honnête, c'est la première étape. Mais il faut aussi que la grâce du bon Dieu puisse travailler. La parole de Dieu va être entendue et va donner la grâce qui va pouvoir à ce moment-là être déposé dans le sillon, et si le sillon a bien été préparé, alors la grâce peut donner du fruit. Donc à nul autre ne convient mieux cette qualité de semeur qu'au Fils de Dieu, qui est sorti du sein de son Père, inaccessible à toute créature, pour venir en ce monde rendre témoignage à la vérité. Donc celui qui remplit tout de son immensité est sorti non point en allant d'un lieu dans un autre, mais en se revêtant de notre chair pour s'approcher de nous. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se fait tout petit pour que nous n'ayons plus aucune excuse et que nous puissions nous rapprocher de lui très facilement. Donc, cette parabole du semeur montre la miséricorde du bon Dieu qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est que la semence ne tombe que dans le bon endroit, à savoir Le champ qui était bien préparé, mais notre Seigneur respecte notre volonté propre. Si la volonté propre n'est pas soumise à la volonté divine, à ce moment-là, la semence ne va pas pouvoir tomber dans le bon champ, elle va tomber dans les graines, dans ce côté du chemin, sur la pierre, dans les épines, et les épines croissantes vont étouffer la semence. Ces épines qui croissent, nous verrons ça plus tard, ces épines qui croissent représentent les choses matérielles qui vont étouffer les choses spirituelles. La graine qui est tombée dans les épines ne peut pas grandir parce que les épines empêchent la graine de se développer, la plantule de se développer. C'est la même chose pour nous. Si je vis dans l'esprit du monde avec les trois concupiscences vont m'étouffer complètement et vont empêcher la grâce sanctifiante de se développer en moi. Donc, le Père parle de ce semeur qui est sorti pour semer sa semence. Et Jésus-Christ, disent les Pères, donne avec raison à son avènement le nom de sortie, car nous étions exclus de la présence de Dieu. Et lorsque des rebelles condamnés par le roi sont bannis, celui qui veut les réconcilier sort pour venir les trouver et converse en dehors avec eux jusqu'à ce qu'il les ait rendus dignes de paraître devant le roi, qui les introduise dans sa présence. Et c'est ce que fait Jésus-Christ. Mais cette personne qui nous rend dignes de paraître devant le roi, qui nous introduit en sa présence, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est son rôle. Le rôle de la Sainte Vierge Marie consiste à amener les fidèles, les pécheurs, de nouveau à son divin Fils. Seul le Verbe de Dieu, créateur et auteur de toutes les semences, est sorti pour répandre par la prédication de nouvelles semences, c'est-à-dire les mystères du royaume des cieux. Ce n'était point la propre semence que répandaient Paul ou Jean, Saint Paul ou Saint Jean, mais celle qu'ils avaient reçue. Jésus-Christ, au contraire, sème sa propre semence parce qu'il tire ses divins enseignements de sa propre nature. Donc notre Seigneur Jésus-Christ prêche la divinité, alors qu'au contraire, la Nouvelle Église, on voit très bien, prêche l'homme. Donc, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ donne du fruit à sa semence à partir du moment où il y a l'humilité. Le sillon qui est bien préparé pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, recevoir la bonne graine, c'est le symbole de l'humilité. Au contraire, la pierre sur laquelle tombe la graine, le chemin ou les épines, du côté du chemin, les buissons d'épines, représentent l'orgueil. L'orgueil empêche l'âme de s'ouvrir au bon Dieu. On voit bien dans les explications données par les Pères dans la deuxième partie de la page 18, je vais commencer ces explications. Les esprits mauvais sont les démons qui volent en l'air, ou les orbes fourbes, ou les hommes fourbes et astucieux qui désignent sous le nom d'oiseaux. Viennent d'enlever la semence de leur esprit et leur en font perdre le souvenir. Donc les esprits mauvais empêchent la semence de donner des racines. Donc c'est le symbole de la fourberie du démon qui va transmettre sa fourberie du cœur du démon au cœur de l'homme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ désigne les démons par les oiseaux, parce que les oiseaux viennent manger la graine et empêchent donc la graine de donner du fruit. Donc les cœurs indociles sont impénétrables aux divins enseignements et aucune vertu ne peut y germer. C'est un chemin qui n'est fréquenté que par les esprits impurs. Donc le chemin, vraiment celui qui ne s'occupe pas du bon Dieu. Il passe son temps à parler, il ne s'occupe pas du bon Dieu. Donc il est indocile. Première condition pour pouvoir accepter la grâce du bon Dieu, c'est d'avoir la vertu de docilité. C'est une vertu de docilité qui consiste à reconnaître que j'ai besoin d'être formé. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire. Première vertu qu'il voulait voir dans un séminariste, nous disait-il, c'est la vertu de docilité. Nous disait-il, si je n'ai pas cette vertu de docilité dans le cœur du séminariste, le séminariste ne peut pas ouvrir sa porte à l'étude. Et donc, indirectement, à la grâce, parce que l'étude va permettre au cœur, si vous voulez, d'être préparé comme le bon champ est préparé par le tracteur qui prépare le sillon, de la même façon, l'étude va amener à l'amour du bon Dieu. L'étude n'est pas une fin en soi, l'étude est un moyen pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Donc, c'est c'est les cœurs indociles, donc sont représentés justement par ces pierres et par ce chemin dans lequel la graine ne peut absolument pas germer. Voilà, je vais arrêter là. Parce que j'essaie encore une fois de limiter mes cours à 1 heure. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.